Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, RTL Soir, bienvenue. On est ensemble jusqu'à 18h30. L'heure à laquelle vous referez le match avec Christian Olivier. À la une ce soir, les adieux de la reine Elisabeth, de la famille royale et des Britanniques au prince Philippe cet après-midi à 16h au château de Windsor, au moment où tout le Royaume-Uni observait une minute de silence. Du faste dans l'intimité pour la famille royale, il n'était que 30. On retiendra l'émotion visible du prince Charles, les retrouvailles sans tension apparente entre William et Harry et la solitude de la reine. Nous serons en direct du château de Windsor avec la correspondante d'RTL avant d'accueillir l'historien Philippe Delorme, spécialiste de la royauté. À la une également, le milliard d'euros annoncé par Jean Castex pour les agriculteurs, si durement touchés par le gel. Un milliard en plus de toutes les aides déjà mises en place. Les précisions dans ce journal. La pandémie de Covid-19, elle a fait 3 millions de morts dans le monde. Ce seuil symbolique a été franchi aujourd'hui. En France, la vaccination est ouverte à 430 000 professionnels exposés, âgés de plus de 55 ans, enseignants, policiers, gardiens de prison, entre autres. Pas besoin de rendez-vous. Des créneaux leur sont réservés pour 3 semaines. Une union de la gauche en pointillé. Les responsables des partis de gauche et de l'écologiste sont réunis aujourd'hui à Paris, avec seulement un représentant pour la France Insoumise et le PC, qui ont déjà leur candidat. Sur le fond, pas vraiment d'avancée, mais un nouveau rendez-vous quand même prévu le mois prochain pour parler du programme. Le football avec la suite de la 33e journée. Rennes est allé gagner à Angers cet après-midi 3-0. Et puis depuis 17h, l'Olympique de Marseille reçoit Lorient. Et ce sont les Lorientais qui mènent au score, Hugo Hamelin.
Ouais, sensation au stade Vélodrome. C'est Mofi qui a ouvert le score à la 19e minute. Un duel avec Steve Mandanda. Des Merlus donc qui mènent face à l'Olympique de Marseille. La seconde période vient de reprendre à l'instant.
Le quintet de Vincennes, il fallait jouer 9, 12, 7... 15 et 13. La météo, Valérie Quintin, dites, ça ne va pas vraiment se réchauffer, hein?
Non, vraiment pas du tout. Alors, en journée, on s'en sort assez bien. On est à peu près dans les normales de saison. C'est le matin, c'est la nuit, vraiment, qu'on sent la différence avec là 3 à 5 degrés de retard sur les normales, moins 2 degrés à Beauvais demain matin, 8 degrés à Nice pour la maximale, 3 à Paris, à Lille, à Colmar. Côté ciel, ce sera bien chargé et encore pluvieux sur une large moitié est du territoire, avec de la neige en montagne dans les Alpes à 1200 mètres. Pour les autres, une meilleure chance d'éclaircie, notamment sur la façade ouest, et donc des températures dans l'après-midi qui iront de 10 à 19 degrés, avec 12 à Cherbourg, 14 à Paris, à Grenoble, à Ajaccio, 15 à Lyon, 17 à Bordeaux, maximum 19 pour Montpellier.
Merci Valérie Quintin. Et puis avant 18h30, rendez-vous comme chaque samedi soir avec Mon Métier, Ma Passion. Armelle Lévy, calculée à la main, elle sera avec un expert comptable.
RTL Soir, Vincent Parisot.
Allez, direction le château de Windsor, où le prince Philippe a donc été inhumé cet après-midi, après des funérailles en petit comité en raison de la pandémie de coronavirus. 30 membres de la famille royale et la reine, bien sûr, qui a donc fait ses adieux à celui qui était, selon ses propres mots, sa force et son soutien, le prince Philippe, qui s'était placé en retrait depuis son couronnement en 1952. Bonsoir Marie Billon.
Bonsoir.
Vous êtes en direct du château de Windsor. Malgré la situation sanitaire, le prince a eu des obsèques très solennelles et en même temps très atypiques en tout petit comité.
En tout petit comité, effectivement, il devait y avoir 800 invités hein, dans les plans initiaux avant la pandémie, notamment des hauts dignitaires étrangers. Évidemment, il a fallu réduire la liste des invités à 30, hein, puisque c'est la jauge maximale en ce moment pour les funérailles. Et puis, très peu d'invités venant de l'extérieur. Le prince Harry, évidemment, est venu de Californie. Et 3 membres de la famille allemande de Philippe étaient là aussi. Tous ont dû faire une quarantaine avant de venir là. Mais c'est vrai que c'était un petit comité, une cérémonie très militaire, comme Philippe les voulait. Philippe a beaucoup participé à l'élaboration des funérailles, même si la reine, après son décès, a dû évidemment les réduire à cause de la pandémie. Mais on a pu voir quand même qu'il y avait beaucoup, notamment de soldats, de militaires dans la cour du château, là où il était possible, en fait, d'avoir le plus de personnes possible. Et il y a eu beaucoup de défilés militaires, comme Philippe les voulait.
Voilà, vous l'avez dit donc, un des obsèques à l'image du prince Philippe et du militaire qu'il a été, même si, c'est un peu un paradoxe, toute la famille royale, sans aucune exception, était en tenue civile.
Oui, absolument. Alors effectivement, c'est assez surprenant, mais c'est une décision qu'a pris la reine et il est possible qu'elle ait pris cette décision parce que ni Harry ni Andrew, son fils, n'auraient été autorisés à porter leur tenue militaire. Tout simplement parce que eux deux ne sont plus des membres actifs de la famille royale. Harry, parce qu'il vit aux États-Unis et qu'il a décidé avec son épouse Meghan de se mettre en retrait, et Andrew parce qu'il a dû se mettre en retrait après son interview catastrophe avec sur la BBC par rapport à son amitié avec Jeffrey Epstein. Donc pour pas qu'il finalement soit un peu humilié en étant les seuls à être en noir, et puisque c'est des funérailles un petit peu anormales puisqu'il n'y avait que 30 personnes, la reine a décidé qu'elle pouvait se permettre cette flexibilité et donc a demandé à tout le monde de ne pas porter ses habits militaires, mais chacun, tous, enfants, filles, garçons, tout le monde, tous les enfants de la reine portaient quand même tous leurs badges militaires sur leur tenue noire de deuil.
Et puis évidemment, et vous l'avez évoqué, ils étaient très regardés en troisième ligne dans le cortège funéraire, derrière les enfants de la reine et du prince Philippe, leurs deux petits-fils William et Harry. Dans la procession, ils n'étaient pas côte à côte.
Non, ils étaient séparés par un de leurs cousins, Peter Philippe. C'était en fait les trois petits-enfants du couple royal qui défilaient côte à côte. Mais on se demandait pourquoi est-ce que finalement Harry et William n'étaient pas exactement tous les deux à côté. Pourquoi ils étaient séparés par leurs cousins? Évidemment, on a interprété ça comme ils s'entendent tellement mal que ce serait peut-être une mauvaise chose de les mettre à côté. Après, on n'aurait pas imaginé tous les deux en train de se disputer derrière le cercueil de leur grand-père. Donc c'était un petit peu un mystère. Et puis quand ils ont pu finalement briser les rangs à la fin de la cérémonie religieuse, eh bien, ils se sont mis à marcher ensemble et à parler ensemble. Alors évidemment, avec les masques, on peut encore moins interpréter ce qu'ils se sont dit, mais c'est une image qui a été reprise partout et qui est déjà commentée dans tous les médias britanniques. Les deux frères se parlent et apparemment se parlent plutôt aimablement. Est-ce que c'est les retrouvailles et les réconciliations tant attendues par les Britanniques? Ça, c'est pour l'instant, on ne peut pas savoir.
Oui, mais c'est une image qui sera sans doute très largement commentée dans les jours à venir. Marie, le public avait été appelé à ne pas se rassembler, à suivre la cérémonie à la télé, mais quand même, certains sont venus.
Oui, c'était quand même pas la foule des grands jours, une foule immense comme on aurait pu s'y attendre en temps normal, mais il y avait quand même un petit peu de monde devant le château de Windsor.
Je suis là pour rendre hommage au prince Philippe et montrer à la reine et au reste de la famille royale qu'on pense à eux. On ne montre pas beaucoup nos émotions, nous les Britanniques, sauf quand on perd l'un des membres de notre famille royale. C'est là qu'on baisse la garde et que normalement on se rassemble tous. Là, ça n'a pas été possible pour tout le monde, donc c'était d'autant plus important que je sois là.
Alors certains ont regardé la cérémonie depuis des terrasses de pubs, hein, les pubs qui ont pu rouvrir leurs terrasses avec le déconfinement lundi. Certains de ces établissements avaient installé des écrans en terrasse exprès, mais c'est vrai que la majorité des Britanniques, et notamment les fans les plus ardents, hein, ceux qui campent normalement devant les palais et les hôpitaux dans des occasions joyeuses et moins joyeuses de la famille royale, eh bien eux ont regardé les funérailles de chez eux. Ils ont obéi aux ordres de Sa Majesté, comme ils me l'ont dit, de ne pas se rassembler à cause du Covid.
Merci Marie Billon, la correspondante d'RTL, donc, qui était en direct du château de Windsor. Et nous sommes donc avec l'historien Philippe Delorme, auteur de Philippe d'Édimbourg, une vie au service de Sa Majesté, c'est chez Taillandier. Bonsoir Philippe Delorme.
Oui, bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous. Alors, quel est votre regard à vous sur cette cérémonie? Est-ce qu'elle était à l'image du prince Philippe?
Oui, elle était à son image dans la mesure où elle était sobre et qui ne voulait pas de trop de cérémonies fastueuses, mais en même temps elle est à l'image de notre époque assez déshumanisée depuis un an à travers de cette période que l'on traverse où bon on a vu la reine toute seule hein, avec ses enfants qui étaient à des dizaines de mètres d'elle, ses petits enfants qui ne pouvaient pas la toucher, qui ne pouvaient pas l'approcher. Enfin, on a l'impression de vivre dans un monde un petit peu angoissant, en tout cas, c'est ce que ça m'a laissé comme image.
On a vu d'ailleurs quand même assez peu d'images de la reine. Ce sont des consignes, selon vous, qui ont été données pour ne pas qu'on voit sa peine,
écoutez,
par exemple.
Elle était seule, elle était masquée, chapeautée comme à son habitude. Donc, bien sûr, on n'a pas vu grand-chose. On a vu une dame très âgée, courbée et fatiguée, manifestement, et très, très traumatisée par l'événement, c'est évident. Mais en même temps, on a vu que cette semaine, elle avait déjà repris ses activités officielles, qu'elle a assisté à deux cérémonies. Donc, c'est quelqu'un qui va reprendre immédiatement, je dirais, sa tâche et qui ne va absolument pas baisser les bras dans la circonstance. C'est absolument inconcevable pour elle.
Et quand même, on peut dire que c'est une page de l'histoire britannique qui se tourne, avec maintenant une reine isolée.
Oui, le chapitre se terminera véritablement avec la mort de la reine, mais c'est vrai que Philippe laissera son empreinte. Je dirais qu'il est redevenu peut-être plus populaire avec cette série télévisée, The Crown, là, hein, où il est représenté de manière plutôt sympathique, alors qu'il avait peut-être ces dernières décennies l'image peut-être d'un vieux prince un petit peu bougon, un peu grincheux, etc. Et là, ça lui a redonné des lettres de noblesse, je dirais, et même en France, où personne ne le connaissait plus, on a vu que sa mort avait fait sensation. Hein. Donc, je pense que la télévision, enfin, le feuilleton, il est pour quelque chose.
Alors évidemment, et on le disait avec Marie Billon, tout le monde avait les yeux braqués sur Harry et William, hein, après, j'allais dire, les événements de ces derniers mois. Est-ce qu'on peut dire qu'on a assisté à des réconciliations, à une réconciliation directe?
On a beaucoup glosé sur le fait qu'ils étaient séparés par leur cousin Peter Phillips, donc le fils de la princesse Anne, mais c'est simplement une question de protocole. Hein. Il était là devant parce que il était le petit-fils le plus âgé de Philippe, hein, du prince Philippe. Donc c'était pas pour séparer deux lutteurs qui allaient en venir aux mains. Non, je pense que les deux princes sont certainement. D'abord, ils sont tellement attachés par toutes les drames qu'ils ont vécu, la mort de leur mère, etc., qu'il en faudrait beaucoup plus sans doute pour qu'ils se fâchent. Mais bon, il y a certainement eu des explications en famille, déjà, par téléphone ou par internet, je ne sais pas, mais voilà. Donc s'il y a eu quelque chose à discuter, ils l'ont déjà fait, et là maintenant c'était pas le moment, ni l'endroit, ni le lieu pour étaler des batailles de famille
sous les yeux du monde entier, puisque évidemment cette cérémonie a été suivie par des centaines de millions de téléspectateurs sur toute la planète. Merci beaucoup Philippe Delorme, je rappelle votre livre Philippe d'Édimbourg, une vie au service de sa majesté.
RTL Soir, Vincent Parizeau.
C'est une grande bouffée d'oxygène pour les producteurs de fruits et les viticulteurs qui, aux exploitations ravagées par le gel, ils vont bénéficier d'€1 milliard d'aide, en plus des dispositifs qui ont déjà été annoncés. Un fonds de solidarité exceptionnel à la hauteur des dégâts et des pertes. La situation le justifie. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Jean Castex en présentant cette enveloppe lors d'un déplacement dans l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Patrick Tégéraud.
La forte tramontane a emporté les fines feuilles des bourgeons grillés par le gel. Au milieu d'un rang de vignes, le Premier ministre écoute la détresse des vignerons, comme Michel.
Depuis cette catastrophe, j'entends pas mal de personnes dire que ça continue, on arrache tout. D'autres qui disent, moi si je peux, je vends, mais à qui vendre?
La nation va consentir pas d'€1 milliard face à cette crise. C'est une question de survie.
Tout à fait.
Et donc derrière ça, le message qu'on envoie, c'est que l'État y croit. Si on est prêt à ne pas vous laisser tomber face à cet épisode, c'est que nous, en fait, nous faisons un investissement dans l'avenir.
Alors les vignerons sinistrés ont apprécié le discours de Jean Castex.
Moi, personnellement, je n'avais jamais entendu parler de sommes comme ça, quand même, pour une aide à l'agriculture. Hein. Ce qu'on attend, c'est de l'argent frais, disons, pour pouvoir passer le cap.
Après, bon, c'est déjà bien qu'ils débloquent ces choses-là. Voilà, ils parlent des réformes, des assurances, tout ça. Bon, maintenant, à voir ce qui va se mettre en place concrètement.
Bien sûr que si on nous avait dit « on n'a rien pour vous », là, ça aurait été catastrophique. On a 1 milliard, mais on attend. Là, c'est l'abandon de l'agriculture française s'ils ne l'avaient pas fait.
Et puis, il leur faut surtout garder le moral, car ces vignes gelées, il faudra les travailler, y investir encore, tout en sachant qu'on ne les vendangera pas à l'automne.
Bon reportage signé Patrick Tégéraud. Sur le front du Covid, de la pandémie, la barre des 3 millions de morts dans le monde a été franchie aujourd'hui. En France, enseignants, policiers, gardiens de prison peuvent, dès aujourd'hui, se faire vacciner. Un seul critère, avoir plus de 55 ans. Ce ne sont pas les seules professions concernées. La liste complète est d'ailleurs à consulter sur les sites internet des agences régionales de santé. Ça concerne au total plus de 430 000 professionnels. Des créneaux leur seront réservés pour au moins 15 jours, y compris les week-ends. Et cela d'ailleurs dès aujourd'hui. Vous l'avez constaté au parc des expositions de Bordeaux, Juliette Chaignon, le seul endroit en Gironde où c'est possible.
À l'entrée, une file spéciale est réservée à ce public prioritaire. Thierry Sago est le responsable du vaccinodrome.
En complément là, du fonctionnement du centre actuel avec le vaccin Pfizer, là, il y avait une zone de l'entrepôt qui était vacante, donc on a pu aménager cette ligne spécifique très rapidement avec le vaccin AstraZeneca. Et on a deux boxes de vaccination.
Il faut pour y accéder avoir pris rendez-vous en ligne sur Doctolib.
Le box numéro 2 est là.
Les créneaux se remplissent tranquillement. Sur les 200 doses prévues, une cinquantaine a trouvé preneur aujourd'hui, avec une grande majorité d'enseignants comme Pascal, 58 ans.
On a reçu un mail de l'inspection académique nous disant qu'à partir d'aujourd'hui, on pouvait prendre rendez-vous et il y avait un lien. Et j'ai pris rendez-vous pour ce matin. Et c'est quelque chose que j'attends parce que je pense qu'il est important que les enseignants soient vaccinés afin que les écoles puissent rester ouvertes.
Voici votre certificat de vaccination qu'il faudra prendre pour le deuxième rendez-vous.
Deuxième dose prévue début juillet. Les enseignants vaccinés aujourd'hui auront donc une immunité totale pour les vacances d'été et pour la rentrée de septembre prochain.
Juliette Chénion à Bordeaux pour RTL. On marque une courte pause et dans un instant, quelques précisions sur l'enlèvement de la petite Mia.
RTL Soir. RTL Soir, Vincent Parisot.
Dans l'enquête sur la disparition de la petite Mia, les quatre hommes interpellés, placés hier en garde à vue, auraient bien agi à la demande de la mère. Je savais qu'elle n'avait pas le droit de voir sa fille seule et elle pourrait déjà se trouver à l'étranger, en Allemagne, en Suisse ou en Belgique. En tout cas, les ravisseurs qui ont enlevé l'enfant de 8 ans par la ruse seraient proches de la sphère survivaliste, complotiste. Ils étaient déjà visés par une enquête de la DGSI et maintenant on commence à en savoir un peu plus sur le déroulement des faits après l'enlèvement, c'est quelques heures avant que la mère ne la récupère. Dimitri Rablo.
Oui, la mère de Mia est partie d'Épinal à 7h pile, direction Saint-Léonard, à 45 km de la préfecture des Vosges. Quand elle descend du car devant le tabac-presse de ce village de 1300 habitants, il est 8h30, 3h avant le rapt de sa fille. Elle est donc seule et se cache derrière le bâtiment. Là, elle attend, puis interpelle un client en voiture, bonnet sur la tête et masque sur le visage. Elle lui demande de la conduire dans le village voisin, à Anould, également devant le tabac-presse. Elle aurait précisé à cet automobiliste qu'elle partait à l'étranger. À cet instant, les trois hommes qu'elle a chargés d'enlever sa fille à 20 minutes de route d'Anould dont déjà l'enfant avec eux un convoi de deux ou trois voitures. La remise de Mia à sa mère se fait en quelques minutes devant ce tabac-presse. Lola Montemaggi quitte alors le trio, se retrouve seule avec sa fille le long de cette route qui mène jusqu'en Suisse. Personne ne l'a revue depuis mardi en début d'après-midi.
Dimitri Ramelot, la politique avec les responsables des partis de gauche et de l'écologie qui sont rassemblés aujourd'hui à Paris dans un grand hôtel avec en point de mire la présidentielle. Initiative de l'écologie Yannick Jadot, qui espère en faire la première étape d'un rapprochement pour 2022. Mais il y avait de nombreux absents, notamment côté insoumis et communiste, qui n'avaient envoyé qu'un représentant chacun. Et puis à l'arrivée, ben finalement, il a été décidé de se revoir le mois prochain pour parler du fond, avec quand même le principe d'un respect mutuel qui a été acté, Marie Mollet.
Oui, exactement. Principale avancée de ce rendez-vous, un pacte de non-agression. En clair, arrêter de s'écharper publiquement entre formations de gauche. Et c'est déjà une conquête pour Yannick Jadot.
Le respect mutuel. On ne disqualifie pas d'autres formations politiques, écologistes ou de gauche. Nous allons débattre des solutions pour les Françaises et les Français.
Mais les points d'accord s'arrêtent là, car certains veulent avancer sur un projet de candidature commune pour 2022 et vite, comme le patron du PS, Olivier Faure.
Oui, nous avons la volonté d'aboutir à un projet de gouvernement et à une candidature commune pour l'élection présidentielle. C'est pas rien. Celles et ceux qui désespèrent de la gauche peuvent se dire à partir d'aujourd'hui que maintenant il y a quelque chose qui se passe.
Mais un projet de gouvernement, c'est hors de question à ce stade pour les insoumis. Le député Éric Coquerel a préféré s'absenter pendant la photo de famille.
Certains estiment que sans même essayer de vérifier ce qu'on peut mettre dans le programme, ils peuvent déjà avoir une candidature commune. S'ils se réunissent entre eux, ça sera sur une ligne de centre-gauche. Bon, ça les regarde. Mais c'était pas le sujet de cette réunion aujourd'hui.
Les insoumis qui à gauche font la course en tête dans les sondages, un rassemblement d'accord, disent-ils, mais seulement s'il se fait derrière Jean-Luc Mélenchon.
Marie Mollet, et puis sachez aussi que le délit d'écocide a été adopté à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi climat. Des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison sont prévues pour punir les atteintes graves à l'environnement au niveau national. Allez, retour au sport avec le football, la suite de la 33e journée. Je vous rappelle que Rennes est largement allé gagner à Angers, 3-0. Depuis 17h, l'Olympique de Marseille reçoit Lorient. À la mi-temps, les Lorientais menait 1-0. Mais alors l'OM a bien redressé la barre, hein, Hugo Hamelin.
Exactement, retournement de situation en 3 minutes seulement. 53e, c'est Payet, Dimitri Payet qui égalise sur une passe de Milik. Et puis 3 minutes plus tard, donc Lirola, l'Espagnol, qui en profondeur sur une passe de Thauvin, va tromper le gardien lorientais. Marseille mène 2-1 face au Merlu breton. Il reste 25 minutes à jouer dans le temps réglementaire ici au Stade Vélodrome.
Merci beaucoup. Et en rugby, dans le top 14, Castres s'est imposé face au Stade Toulousain, 26-24. Allez, une courte pause. Dans un instant, prenez votre calculette, ce sera mon métier, ma passion.
RTL Soir.